Dans le forum avec Tony Marinaro, on se branche à Habs Radio.
Rebonjour, Marinaro, notre segment Habs Radio tous les mercredis avec Simon Snake Boisvert. Snake, comment vas-tu?
Toujours très bien. Et toi, Tony?
Moi, ça va très bien et ça va bien pour Jake Evans aussi parce qu'on l'a vu en douleur lors du dernier match. On a eu peur que c'était vraiment sérieux, mais Evans est là à matin. Ça, c'est des bonnes nouvelles. D'autres nouvelles, c'est une journée de thérapie aujourd'hui pour Mike Matheson et pour Patrick Laine. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. On va entendre peut-être Martin Saint-Louis et la réaction du vestiaire un peu plus tard dans l'émission. Le Canadien qui se prépare à affronter les Penguins de Pittsburgh et Sidney Crosby. Puis mon gars, il a hâte parce qu'il va être là demain soir. Mais c'est ça. Donc, Evans est là. En parlant d'Evans, Snake, oui. Son contrat prend fin à la fin de l'année. Toi qui sais beaucoup sur les jeunes joueurs, est-ce que, selon toi, Owen Beck pourrait prendre la place de Jake Evans tout de suite l'année prochaine si Evans n'est pas de retour avec le Canadien?
Bien, ça dépend des attentes que tu as envers Evans. Si tu parles de Evans pour l'amener tranquillement sur un quatrième trio...
Tu veux dire Beck?
Beck, excuse. Oui. Moi, je dis oui, parce qu'il ne faut jamais oublier le rapport qualité-prix là-dedans. Le contrat que Jake Evans va demander et puis le contrat qui paye Beck en ce moment, là, ce qui est le salaire minimum, là, 900 pour les recrues, 925 000, ben, ça fait un gros écart entre les deux. Puis, je pense pas qu'on doive payer Evans un si gros salaire que ça. Je ne sais pas combien il va demander, 2,5, 3 millions, parce que ça demeure quand même un joueur de soutien. Et l'argent, éventuellement, va devoir être dépensé sur les vedettes. C'est comme ça partout dans la LNH. Alors, pour moi, Evans, s'il demande 2,5, 3 millions, c'est bye-bye.
Ouais. Mais peut-être, tu sais, OK, Jake Evans, ses demandes salariales, à quel montant tu le gardes, à quel moment tu dis OK, bye, ça a été le fun?
Bon, je vais te donner moi ce que je ferais, puis je vais te donner peut-être la logique un petit peu plus émotive, OK? Moi, le pragmatique, Jake Evans, c'est bye-bye. Parce que j'aime mieux un gars à 925 000 $ qui va jouer un rôle de soutien. Bon, la logique peut-être un petit peu plus émotive, vu qu'Evans est ici depuis longtemps, etc., etc., mm-hmm. Je te dirais 2 millions.
Donc, 2 millions de $ pour Evans. Par contre, toi qui veux donner une opportunité aux jeunes joueurs, parce que ça se peut qu'Owen Beck peut avoir son opportunité quand même, parce que, de forte évidence, là, Christian Dvorak va être échangé.
Oui, sauf qu'éventuellement, moi, je ne vois pas les deux cohabiter avec le Canadien parce que je pense que la ligne du centre, elle doit être plus forte que ça. Tu ne peux pas avoir Evans et Beck sur tes trois et quatrième trios. Tu dois avoir un meilleur troisième centre que soit Evans ou soit Beck. Donc, pour moi, c'est Evans ou Beck et ce serait le temps ou jamais de laisser partir Evans, qui a quand même quoi, 28 ans?
Oui.
Et puis, on sait que les joueurs de soutien comme ça, l'usure peut être très, très rapide. Donc, si tu lui donnes un contrat de 4 ans, exemple, mettons, là, on lui donne 4 ans, 12 millions, c'est un exemple que je donne. Ben, qu'est-ce qui dit qu'il va être aussi, il va valoir le 3 millions dans 2 ans? Et en même temps, là, le Canadien va devoir commencer à payer certains joueurs. Tu sais, je sais que j'en regarde beaucoup à l'avance, mais tu sais, il y a des contrats qui vont devoir être renouvelés. Qu'est-ce qu'on fait avec Patrick Laine en 2026?
Ouais.
Il y a Demidov qui va être à renouveler en 2028.
Mais Patrick Laine, ça va dépendre de sa production, évidemment, cette année, oui. Puis l'année prochaine.
Oui, mais s'il y a une production qui se maintient, Patrick Laine ne jouera pas pour 4,5 millions.
Ouais.
T'sais, alors, je sais que le plafond augmente, je sais que ce n'est pas la fin du monde, mais moi, c'est surtout de mettre les joueurs dans la bonne chaise dans l'équipe. T'sais, tu te fais un casier, puis tu mets les joueurs dans la bonne chaise, puis selon moi, je ne vois pas Evans et Beck cohabiter parce que je pense que ce sont deux joueurs de centre, c'est pas nécessairement des joueurs que tu vas faire jouer à l'aile. Alors, puis Beck, encore là, Beck, ça demeure un joueur de soutien. Est-ce que tu donnes 2,5, 3 millions à un joueur de soutien? Pour moi, la réponse est non.
Est-ce que tu vois Michael Hage puis Oliver Kapanen cohabiter un jour?
Ben moi, je vois pas Oliver Kapanen dans la Ligue nationale avoir une très longue carrière. Alors, pour moi, Oliver Kapanen, il est même pas dans l'équation.
Wow!
Michael Hage, lui, par exemple, je le vois de plus en plus, je le vois comme un top 6.
De plus en plus, tu le vois comme un top 6. Hein?
Que ce soit au centre ou à l'aile, là, ça va dépendre qui le Canadien repêche ou échange ou signe dans les prochaines deux prochaines années. Là. Moi, hey, je le vois. Tu sais, quand je dis top 6, là, Tony, je veux dire dans les 6 meilleurs attaquants du CH. Mais je sais que des fois, on est obligé de prendre un attaquant top 6 puis le mettre sur un troisième trio parce que bon, c'est un ailier droit ou c'est un ailier gauche ou c'est un centre. Comprends-tu? Ça dépend de la position. Alors, on peut regarder un top 9. Puis tu, après ça, tu classes tes joueurs à peu près dans l'ordre d'importance. Moi, je vois Michael Hage comme un des 6 meilleurs attaquants du Canadien d'ici peut-être 2-3 ans.
Alex?
Ouais, Simon, OK, j'aime ce que j'entends, je trouve ça encourageant. Un, pourquoi Hage dans le top 6, puis c'est quoi ton top 6?
Bien, comme je t'ai dit, top 6, là, ça dépend, comme je t'ai dit, 6 meilleurs attaquants. Bon, en ce moment, on peut dire qu'on aurait Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Demidov, Laine. Et puis, est-ce que j'en oublie un? Ben, j'irai Michael Hage, là, en ce moment. Peut-être les 6 meilleurs attaquants. Mais il y a un repêchage qui s'en vient en 2025. Si le Canadien repêche un James Higgins, un Michael Mesa, un Porter Martone, ben là, il y a quelqu'un qui va devenir le numéro 7. Mais c'est pas grave. C'est quand t'as un gros top 9 que tu gagnes la Coupe Stanley.
Donc, alors, pas de Dak, pas de Laine, là.
Pardon?
Pas de Dak, pas Laine dans le top 6.
Oui, Laine, je l'ai nommé dans les 6.
OK,
six.
OK, excuse-moi.
Oui, oui. Dak, non. Dak, je le vois comme un top 9, mais je le vois pas comme un des 6 meilleurs attaquants du CH éventuellement. Puis, tu sais quoi? C'est bon signe ce que je dis. Il y en a qui peuvent être déçus quand je dis ça, mais non, c'est justement, c'est bon signe. Tu sais, Demidov, là, il va faire débarquer pas mal de monde là, dans, ouais, dans l'organigramme. Et c'est ça que tu veux. Tu veux des joueurs qui vont arriver, qui vont faire en sorte que les joueurs actuels auront peut-être pas des attentes, on n'aura peut-être pas des attentes aussi élevées qu'on a en ce moment. T'sais, Nick Suzuki ne sera plus le meilleur attaquant du CH, et ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle.
OK, je t'avais demandé si Michael Hage et Oliver Kapanen peuvent cohabiter, parce, ouais, que tu avais dit juste avant ça que tu ne vois pas Jake Evans et Owen Beck cohabiter, ouais, et tu as dit que tu ne penses pas qu'Oliver Kapanen va avoir une grande carrière dans les nationales.
Non.
Est-ce que Michael Hage et Atos Koivu peuvent cohabiter?
Ben, je vois pas de carrière pour Atos Koivu non plus. Oh. Alors,
aïe.
Non, mais Tony, tu me parles de Michael Hage, qui est un joueur, d'après moi, de premier plan, un joueur d'impact, puis tu me compares ça à deux gars qui vont avoir de la misère à la mettre dedans dans la Ligue nationale.
Ouais. Non, mais écoute, je sais que le potentiel de Hage est plus élevé que ces deux joueurs-là, mais je te les nomme parce que c'est des prospects, ouais, du Canadien, puis c'est des joueurs de centre.
On ne parle pas de la même catégorie de joueurs du tout.
OK, mais là, écoute, oui, tu as raison, mais là, tu aurais pu dire, tu sais, un, ça va être un deuxième trio, l'autre peut être un troisième, ou l'autre, tu peux être un quatrième, mais là, tu dis que Kapanen, puis Koivu, là, tu les vois pas dans les nationales.
Ouais, moi, je les vois pas dans les nationales. Évidemment qu'à un moment donné, s'ils se forgent une niche 7 minutes par soir sur un quatrième trio ou comme 13e attaquant, ça peut arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que je les vois pas ayant un impact.
Oui, oui.
Dans la NH, je te dirais, là, regarde ton lit. OK?
Donc, t'as lancé pas mal la serviette déjà dans leur cas.
Oui, mais il y a un gars, par exemple, un choix un petit peu plus lointain pour lequel j'ai pas lancé la serviette. Il s'appelle Logan Sawyer. Il joue à l'Université Providence en ce moment.
Oui.
Je dois te dire que je l'ai vu jouer en personne deux fois cet automne. Là, je suis pas en train de te dire que c'est un top 9. Je suis pas en train de te dire que c'est un futur joueur d'impact. Mais je peux te dire une chose, c'est un gars qui a des qualités pour jouer dans la Ligue nationale un jour. Est-ce qu'il va les développer? On est encore loin de ça. Mais j'ai été très impressionné par le fait que c'est un joueur de 18 ans qui arrive dans la NCAA des écoles secondaires américaines qui sont vraiment pas du gros calibre. Et Logan Sawyer, il patine, il travaille fort, il tient son bout et il crée des choses.
Logan Sawyer, lui, qui a été repêché 78e, il faut le dire en passant, lors du troisième round du dernier encamp, 8 sélections après Atos Koivu, qui lui a été repêché 70e par le Canadien.
Alors pour moi, Logan Sawyer est en avant d'Atos Koivu et d'Oliver Kapanen, dans mon évaluation.
Même de Kapanen, wow. Puis ouais. Kapanen,
il n'a pas montré grand-chose. Hein.
Non, mais il a quand même commencé la saison dans la Ligue nationale.
Oui, puis c'est qu'on n'avait pas le choix, Alex. C'était soit la Suède, soit ça. On l'a renvoyé à Laval, où c'est sa place.
Je comprends, mais là, on parle d'un gars qui... C'est comme... Le gars, il a quand même réussi à jouer des matchs dans la Ligue nationale avec les Canadiens comme recrue. Il a pas été ultra mauvais non plus. Là. Moi, je m'excuse, mais je suis loin d'abandonner sur ce gars-là. Puis j'ai bon espoir de le voir aussi. Là.
Tu le vois comment, Alex, toi? Toi, Kapanen, là, mettons, dans l'organigramme du Canadien, le Canadien, mettons, en 2028, a une équipe qui sera encore édasse, exemple. Puis ça se peut, ça. Oliver Kapanen, il est où dans ton organigramme du Canadien en 2028?
Ben, écoute, c'est très difficile à prédire, mais on s'entend, Simon, qu'il ne sera pas sur un top 6. Il va être peut-être sur un top 9, peut-être au quatrième trio, mais encore là, c'est pas le quatrième trio, le joueur de quatrième trio idéal. Donc, je vais te répondre, pour répondre à ta question, top 9.
S'il est sur un top 9, ce serait peut-être à l'aile.
Wow.
Peut-être.
OK. T'es très, très optimiste pour un gars comme, pas toi le gars, mais Kapanen.
Oui, je comprends.
T'es sur un joueur, pour un joueur qui a des habiletés offensives et très, 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 très limitées, selon moi.
Mais pourtant, on était très impressionnés au début de la saison. Moi, honnêtement, ça m'étonne parce que le gars, il a commencé la saison dans la Ligue nationale, puis je comprends là qu'on a plusieurs autres espoirs à venir, puis qu'on va avoir des vétérans peut-être qui vont arriver par la voie des transactions aussi à un certain moment rendu là, mais de me projeter en 2028 puis de dire « Ah, j'abandonne sur Kapanen puis je le vois pas là ».
Non, mais c'est correct.
Moi, j'ai un doute. Là.
Il a ses opinions, puis c'est ça que je respecte moi, je vais me ranger de ton côté. Moi, je ne lancerai pas la serviette dans le cas de Kapanen. Je pense qu'il a montré de belles choses. Dans l'année nationale, il n'était pas prêt pour l'année nationale. Il n'était pas prêt pour l'année nationale. On s'est tous excités, comme Simon dit, dans un match pré-saison qu'on l'a vu. Mais la réalité, c'est des matchs pré-saison. Là, les gars, les vétérans, ils se donnent pas. Ils sont pas intéressés. Donc, mais moi, je pense que si Kapanen, il va falloir changer son jeu un peu s'il va être sur un troisième trio dans l'année nationale. Ou sinon, peut-être, il serait à l'aide. Mais en tout cas. Donc, Snake, rebonjour. Canadiens, 3 victoires lors de leurs derniers 4 matchs. Ils ont battu les Islanders. Ils ont battu les Predators. Ils ont battu les Ducks d'Anaheim. Ils ont perdu contre les Capitals. Qu'est-ce que tu as vu dans leur victoire? Qu'est-ce que tu as vu dans ces matchs-là?
Ben, premièrement, j'ai vu que ça confirme, comme depuis le début de la saison, que lorsque le Canadien affronte une équipe faible, et particulièrement à domicile, ils vont remporter la victoire. Alors ça, c'est ça qu'on voit. Et je sais qu'il y en a qui commencent à parler du mix. Là, avant de te répondre à ta question, tu regarderas le calendrier du Canadien à partir du temps des fêtes, là, à partir du lendemain de Noël jusqu'à la pause du tournoi des Quatre Nations. C'est absolument brutal. Alors, je crois que si à ce moment-là, le Canadien réussit à naviguer dans ce calendrier-là, ben on pourra dire qu'il y a réellement eu une progression surprenante cette année. Mais en principe, c'est là que... tous les espoirs devraient s'effondrer durant cette période-là. Bon, ce que j'ai vu dans ces 3 matchs-là, ben ce qu'on voit, c'est que Patrick Laine, tu sais, on n'a pas été habitué à ça à Montréal, un attaquant aussi talentueux.
Ben
tu parles d'un gars là qui a 3 buts alors qu'il n'est pas en forme. Tu sais, il n'est vraiment pas à 100%. Alors, qu'est-ce qu'un Patrick Laine en forme et en bonne santé physique et mental peut donner, ben moi de plus en plus.
Écoute, avec un joueur de centre qui l'alimente, je vais répondre à ta question.
Oui.
On peut espérer qu'il redevienne un marqueur de 35 à 40 buts.
Ben moi je t'avoue que j'y crois toujours.
Moi
autant
aussi.
Comme je te dis que je ne crois pas à Oliver Kapanen dans le top 9, autant moi, Patrick Laine, je crois de plus en plus qu'il va faire partie du noyau de clubs prétendant à la Coupe qui, normalement, devrait s'en venir à Montréal d'ici à peu près 2-3 ans. Il est encore très jeune. Et puis, on a encore 1 an et quelques mois pour l'évaluer. Et si le prix est juste, je vois Laine donner un 5-6 grosse saison au Canadien encore.
Ce serait quoi le prix, selon toi, si il continue de performer comme il performe, s'il produit, s'il marque des buts, si l'an prochain connaît un bon début de saison, puis il va rentrer dans la dernière année de son contrat, toi, t'es Kent Hughes, tu l'approches quand et tu lui offres combien?
OK. Regarde, c'est sûr que le Canadien a déjà un peu des comparables. Tu sais, Nick Suzuki, Cole Caulfield sont à presque 8 millions. Ce sont des joueurs établis et puis qui sont signés à long terme. Moi, je te dirais, Patrick Laine, j'essaierais probablement à la fin de la saison. J'attendrai pas l'année prochaine. Je regarderai comment ça s'est déroulé jusqu'au mois d'avril. On a encore beaucoup de hockey à jouer. Moi, je pense que j'offrirais, s'il performe bien, peut-être 5 ans au même prix que Suzuki et Caulfield et Slavkovski, à peu près là. 7,58 millions.
5 ans. C'est de l'allure.
5 ans, parce qu'oublie pas, là, c'est 5 ans à partir de 2026.
Oui.
T'sais, donc, ça veut dire qu'il joue encore l'année prochaine. Donc, c'est 6 ans de Patrick Laine à Montréal. 6 ans et demi, là, si on inclut la demi-saison. Alors, j'offrirais une prolongation de 5 ans qui l'amènerait à 33 ans.
Oui, puis il faut un contrat à long terme.
Ça trouve être la fenêtre du Canadien va commencer à s'ouvrir de plus en plus.
Là. Oui, puis il faut un contrat à long terme pour un gars qui va être agent libre sans restriction à l'âge de 27 ans. Là, t'sais, parce que lui, il se dit... Écoute, ça va être le dernier contrat de sa carrière dans les nationales. Fort probablement. Mais peut-être, je sais pas, là. Peut-être le feu va brûler en lui à l'âge de 33, 34 ans aussi. Mais ça prend un contrat à long terme.
Ça prend au moins 5 ans. Moi, j'irais pas jusqu'à 8. Mais moi, ce que je ferais valoir à son agent, je dirais à Laine, je dirais, écoute, c'est pas ton dernier contrat. À 33 ans, si tu produis encore, tu vas aller t'en chercher un autre. Alors, tu sais, que je lui donne 8 ans, à 28 ans, qu'il mène à 36 ou qu'il s'en aille à 33 puis qu'il a eu la chance d'avoir un contrat, bien, lui, il peut parier sur lui-même, comprends-tu?
Oui.
Donc, moi, j'essaierais ça parce que quand même, Laine, là, tu sais, j'adore Patrick Laine, puis tu sais, Tony, je l'ai dit souvent, puis je me suis trompé. Je l'avais premier en 2016 en avant de Austin Matthews. Puis tu sais, on voit quand même des flashs de son...
De son grand talent.
Cependant, on a vu que dans les dernières années, c'était pas constant. Il a été blessé, il a manqué pour d'autres raisons. Tu sais, c'est pas un joueur sur qui tu peux, qui a prouvé qu'il était nécessairement super fiable, comme, mettons, Austin Matthews. Alors, c'est sûr que 5 ans, moi, je trouve que c'est pas mal la limite à laquelle j'irais en ajoutant l'année de contrat de l'année prochaine, qui est déjà en vigueur, donc 6 ans de Patrick Laine.
Tu as déjà dit une équipe qui va aller loin, Cole Caulfield, Nick Suzuki, c'est pas des joueurs de premier trio. Avec les performances de Caulfield en particulier cette saison, est-ce que tu penses toujours les mêmes choses?
Ben, moi, ce que je pense, c'est que, comme je t'ai dit, on classe ça par ordre. Moi, je me suis toujours dit, le jour où Nick Suzuki va être le 4e meilleur joueur du Canadien, attaquant du Canadien, et Cole Caulfield, le 5e meilleur attaquant du Canadien, la Coupe Stanley est très proche. Alors, ça n'enlève rien à ces deux joueurs-là. C'est juste qu'il y aurait mieux. Tu sais, parce que là, on le voit, là. Suzuki, Caulfield sont les deux meilleurs attaquants du Canadien. Puis, tu sais, c'est pas... T'sais, on n'est pas dans la crème de la Ligue nationale. Mais tu ajoutes 3 joueurs qui vont être meilleurs qu'eux. Puis là, tu dis, wow, hey, Cole Caulfield, mettons qu'il fait 35-40 buts, puis qu'il devient finalement un joueur parmi tant d'autres. Là, tu as vraiment une recette idéale. Et n'oublie pas que le Canadien, il y a 3 de ces joueurs-là, là, Caulfield, Suzuki et Slavkovski, qui sont quand même signés. Là, Slavkovski, on ne sait pas si ça va être un bon contrat ou non, c'est trop tôt pour le dire. Mais il reste quand même que si Suzuki et Caulfield continuent à jouer comme ils jouent et que Slavkovski devient ce qu'on pense qu'il va devenir, ça demeure quand même vraiment des bons contrats pour le Canadien. Tu sais, il n'y a pas de joueurs de 10, 11, 12 millions là-dedans. Alors, ça donne une chance de pas être pris, mettons, comme les Oilers d'Edmonton, qui vont avoir Drysdale à 14 millions, peut-être Connor McDavid à 16 millions.
Demain, Canadien et Penguin, tu vas regarder quoi? Arbor Jacki, je vais finir avec lui. Arbor Jacki, il connaît tout un mois, là, puis la dernière semaine, là, fantastique. Là. Est-ce que tu as changé ton opinion sur lui?
Moi, je ne change pas mon opinion sur une semaine, Tony. Moi, je réévalue ça année après année comme un joueur performe parce qu'on sait, c'est long une saison, il y a des hauts et des bas. Oui, il a montré des belles choses, ça, je l'avoue. Mais, tu sais, il faut que ça soit sur une longue période avant de pouvoir consacrer un joueur. Mais chose certaine, c'est sûr que c'est pas un top 4 à la défense d'un club champion, ça, c'est officiel.
Qu'est-ce que tu as parlé avec Mathias dans le processus?
Ben, on a parlé du prochain repêchage, parce que là, c'est sûr qu'on souhaite tous un top 2, top 3 aux Canadiens. Est-ce que ça va être possible? Parce que Chicago et Nashville sont vraiment faibles. Et puis, on a parlé aussi de la reconstruction des Blackhawks, où est-ce qu'elle est rendue. Et puis, on a parlé aussi des Capitals de Washington, qui, eux, n'ont pas reconstruit, mais qui trônent au sommet du classement.
On va regarder ça, c'est sur YouTube, évidemment, et sur toutes les plateformes. On se parle bientôt.
Salut, Tony.
Ciao, mon chum.